Pourquoi Afrique ?
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 2 août 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord les titres. L'ex-président américain Donald Trump inculpé pour avoir tenté d'inverser les résultats de l'élection de 2020. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est mort à 89 ans. Niger visite d'une délégation de la CDAO aujourd'hui à Niamey. Réunion de ses chefs militaires à Abuja et la junte prend ses premières décisions de gestion. Aucune décision d'évacuer les Américains du Niger, selon la Maison-Blanche. Au Sénégal, deux morts dans l'attaque d'un bus à l'engin incendiaire. En Tunisie, le président Saïd limoge la première ministre Najla Bouden. Le pape, aujourd'hui au Portugal, pour les journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne. Ne manquez pas notre page sport. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a été inculpé hier, mardi, pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020, une troisième mise en accusation retentissante au pénal de M. Trump, qui est le grand favori des primaires républicaines pour la présidentielle de 2024. Le point avec Rosine Mounezero.
M. Trump est inculpé de complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux après une enquête supervisée par le procureur spécial Jack Smith. Malgré sa défaite, le prévenu était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, durant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, le prévenu a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait en fait gagné, relève l'acte de mise en accusation. Ces accusations étaient fausses et le prévenu savait qu'elles étaient fausses, peut-on y lire. Mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout, selon le document qui affirme que M. Trump a lancé son projet criminel quelques jours après le scrutin. Lors d'une très brève allocution à Washington, Jack Smith, l'air sévère, a déclaré qu'il voulait un procès sans délai. Une première comparution préliminaire a été fixée au 3 août devant un tribunal fédéral de la capitale. L'attaque du Capitole, qui s'est produite le 6 janvier 2021, après des semaines de désinformation, était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine, a-t-il ajouté. Et elle a été encouragée par des mensonges de l'accusé destinés à entraver une fonction essentielle de l'État américain, le processus par lequel la nation collecte, compte et certifie les résultats de l'élection présidentielle, a-t-il asséné. M. Trump, qui est déjà poursuivi au pénal dans deux autres affaires, dénonce ce qu'il a appelé une chasse aux sorcières, une nouvelle interférence électorale et une instrumentalisation politique de la justice pour l'empêcher d'être candidat en 2024.
Dans le reste de l'actualité, l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié est décédé hier mardi des suites d'une crise cardiaque à Abidjan. De nombreux militants ont fait le déplacement à sa résidence de Cocody à Abidjan pour lui rendre hommage. Le compte-rendu de notre correspondant Ange Bijou Nomeyo.
L'atmosphère était glaciale à la résidence du défunt président Henri Konan Bédié. L'annonce du décès de l'ancien président a plongé les militants dans un grand sentiment de détresse. Ces femmes trouvées sur place n'ont pas pu retenir leurs larmes. Le sphinx de Daoukro, comme beaucoup aimaient l'appeler, est décrit par ses militants comme un homme de paix et de rassemblement. Syriac Yoboué, militant du PDCI.
Franchement, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots quand j'ai appris la nouvelle. Je n'y croyais pas. Et c'est ce qui a fait que je me suis même rendu à la résidence du président. Parce que le samedi, avant-hier, j'étais à Daoukro. J'ai eu à déjeuner même, je dirais, avec le président, parce que nous étions en équipe. Et nous avons même fait les photos. C'est hier soir que je suis arrivé à Abidjan. Aujourd'hui, on m'informe que le président, il va mal à point. Donc je dis, si c'est comme ça, je vais me rendre à sa résidence. Malheureusement, à ma grande surprise, on vient d'être informé que le président a rendu l'âme. C'est vraiment un coup dur pour nous les militants.
Henri Konan Bédié a dirigé la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999. Il était âgé de 89 ans.
Au Niger, une délégation de la CDAO qui a lancé un ultimatum à la junte militaire et a renversé le président Mohamed Bazoum est attendue aujourd'hui à Niamey. Entre-temps, la junte a pris hier ses premières décisions de gestion. Le général Abdourahman Tiani a procédé à la nomination des gouverneurs de région, nous dit notre correspondant sur place, Abdulrazak Idrissa.
Les 8 gouverneurs nommés par le général Tiani sont tous des officiers supérieurs, des généraux pour les régions d'Agadez, Diffa, Dosso et Niamey, un contrôleur de police pour Maradi et des colonels pour Tawa, Tillabéri et Zinder. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a également nommé un enseignant-chercheur pour diriger son cabinet. L'autre décision du général Abdourahmane Tiani, c'est la réouverture des frontières aériennes et terrestres avec 5 de 7 pays voisins du Niger. Il s'agit de la Libye, de l'Algérie, du Tchad, du Mali et du Burkina Faso. Une décision de réouverture qui intervient quelques heures seulement après le début des opérations d'évacuation de ressortissants européens, français en particulier. Dans le cadre de la recherche de solutions de sortie de crise, une délégation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est attendue ce mercredi à Niamey. Elle rencontrera les différents acteurs pour une médiation. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Ajoutons que les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO se réunissent à partir de ce mercredi jusqu'à vendredi à Abuja au sujet du putsch au Niger, a annoncé mardi soir l'organisation régionale dans un communiqué. Les États-Unis n'ont pris aucune décision pour le moment d'évacuer leurs ressortissants du Niger, à l'instar de la France, après le renversement du président Mohamed Bazoum, a indiqué hier la Maison-Blanche Claire Morin-Gibourg.
Nous n'avons aucune indication de menace directe visant des citoyens américains ou nos installations au Niger, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby. Nous n'avons donc pas changé notre posture concernant notre présence au Niger pour le moment, a-t-il ajouté. Washington juge par ailleurs qu'il y a encore une petite fenêtre de tir pour la diplomatie en vue d'un règlement de la crise au Niger, a indiqué M. Kirby tout en disant surveiller la situation presque de rondeur. Il a précisé que l'armée américaine ne participait pas à l'évacuation des ressortissants étrangers. Environ 1000 soldats américains se trouvent au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Aucune décision n'a été prise de prépositionner des forces supplémentaires au Niger ou dans ses environs, selon les autorités américaines.
Au Sénégal, 2 personnes ont été tuées hier à Dakar dans une attaque à l'engin incendiaire contre le bus dans lequel elles se trouvaient, ont indiqué le chauffeur du véhicule, le ministre de l'Intérieur et plusieurs officiels. Cependant, le ministre Antoine Abdoulaye Félix Diom s'est gardé d'établir clairement le lien entre l'attaque du bus et la protestation contre l'incarcération de l'opposant Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Selon lui, les assaillants, au nombre de 7, ont dépouillé les passagers de leur argent et de leur téléphone portable. En Tunisie, le président Kais Saied a limogé mardi peu avant minuit sans donner d'explication. La première ministre Najla Boudène, remplacée par un ancien haut cadre de la Banque centrale, Ahmed Hachani, auquel il a demandé de surmonter des défis colossaux. Des médias locaux, plusieurs d'entre eux, ont souligné le mécontentement du président Saïd face à un certain nombre de pénuries dans le pays, en particulier celle de pain dans les boulangeries subventionnées par l'État.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a été invité à se rendre aux États-Unis pour des réunions de haut niveau. Le département d'État indique que c'est dans le cadre des efforts qui visent à renouer le dialogue entre Pékin et Washington, malgré leurs nombreux différends. Le point, Eric Manirakiza.
L'invitation a été transmise lors d'une réunion lundi à Washington entre des hauts responsables américains et chinois, a précisé le porte-parole du département d'État. Ces responsables ont eu une discussion franche, substantielle et productive, indique le département d'État dans son compte-rendu donné dans la soirée. Aucune date n'a été donnée pour la venue de Wang Yi, qui est le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la diplomatie. Le porte-parole s'est refusé à dire si l'invitation avait été acceptée par les Chinois, mais dit s'attendre à ce qu'elle le soit. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déjà rencontré Wang Yi mi-juillet à Jakarta et lors de sa visite à Pékin en juin. Depuis lors, les responsables américains se sont succédés à Pékin, dont la secrétaire au Trésor Janet Yellen et l'envoyé spécial pour le climat John Kerry. Pour sa part, la secrétaire au commerce Gina Raimondo a confirmé fin juillet qu'elle comptait se rendre en Chine d'ici la fin de cet été.
Les Journées mondiales de la jeunesse, le plus grand rassemblement de jeunes catholiques au monde, ont débuté hier à Lisbonne, où des centaines de milliers de pèlerins du monde entier ont afflué pour accueillir le pape François, attendu ce mercredi dans la capitale portugaise. Jean-Roger Bion.
Les pèlerins sont arrivés ces derniers jours et sont hébergés dans des écoles, des gymnases, des casernes, de pompiers et dans des familles d'accueil. Beaucoup d'entre eux prévoient de dormir à la Belle Étoile avant la messe de clôture qui aura lieu le 6 août au parc Tejo, un espace vert qui longe le fleuve Tag. Ce festival interculturel qui dure près d'une semaine se tient tous les deux ou trois ans et a été lancé par le défunt pape Jean-Paul II. Le rassemblement se déroule dans un contexte compliqué, alimenté par un scandale d'abus sexuels dans l'église portugaise, où selon une enquête publiée en février, au moins 4815 personnes ont été victimes d'abus au cours des 70 dernières années. Le pape François devrait rencontrer en privé des victimes d'abus. Il y a eu également des inquiétudes concernant le coût de l'organisation de cet événement dans l'un des pays les plus pauvres d'Europe occidentale. Le voyage du pape François, 86 ans, est le premier qu'il entreprend depuis son opération pour soigner une hernie abdominale en juin. Le souverain pontife célébrera plusieurs messes et participera à plusieurs événements avec des jeunes, des responsables politiques et des diplomates.
Des attaques de drones russes ont visé ce mercredi à l'aube des infrastructures portuaires de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, ainsi que la capitale Kiev, provoquant des dégâts matériels, mais aucune victime selon les autorités ukrainiennes. Les forces russes ont frappé à plusieurs reprises ces dernières semaines les infrastructures portuaires ukrainiennes de la mer Noire, particulièrement à Odessa, d'où étaient auparavant exportées les céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Les sports à présent avec Bagassi Koura.
Oui, bonjour à tous.
Sadio Mané prend la route de l'Arabie Saoudite.
Oui, la star sénégalaise s'est engagée hier mardi avec le club d'Al Nasser où il évoluera aux côtés de Cristiano Ronaldo, loin des projecteurs européens dans un championnat au niveau encore incertain. Après les ballons d'or Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l'Arabie Saoudite a lavé l'affront du refus de la mégastar Lionel Messi en s'offrant Sadio Mané, deuxième du ballon d'or 2022 derrière Karim Benzema. Ni le Bayern ni Al Nasser ne précisent la durée du contrat, mais la presse allemande évoque un engagement sur trois saisons pour le champion d'Afrique 2022 et vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool en 2019. Soit une de plus que CR7 qui a rejoint l'Arabie Saoudite en janvier 2023 pour deux saisons. Les médias saoudiens parlent d'un transfert estimé autour de 30 millions d'euros pour les finances de Record Master avec un salaire annuel de 40 millions d'euros pour le trentenaire sénégalais, plus 10 millions d'euros de bonus éventuels qui pourraient lui être versés en fonction des résultats du club saoudien. Après une saison tourmentée au Bayern Munich, Mané quitte ainsi la Bavière par la petite porte, n'ayant pas répondu aux attentes qu'avait suscité son arrivée à l'été 2022.
Coupe arabe, duel entre l'AS Tunis et le CS Sfaxien.
Oui, les deux équipes s'affrontent pour une place en quart de finale. Selon Foot Africa, l'opposition 100% tunisienne de ce mercredi entre l'AS Tunis et le CS Sfaxien aura lieu au stade Saoud Bin Abdulaziz La rencontre débutera à 18h heure locale, soit 15h temps universel.
Mondial féminin, hier les États-Unis se sont qualifiés dans la douleur derrière les Pays-Bas et qualification plutôt facile pour l'Angleterre.
Oui, déjà en tête du groupe D, les Anglaises ont confirmé leurs ambitions dominant la Chine 6-1 pour assurer tranquillement leur qualification. Les championnes d'Europe en titre affronteront en 8e le Nigeria, une des surprises de la compétition. Derrière l'Angleterre, le Danemark qui a dominé Haïti 2-0 jouera en 8e de finale contre l'Australie, première du groupe B. Plus tôt dans la journée, les doubles tenantes du titre et favorites américaines ont frôlé la catastrophe et l'élimination face au Portugal 0-0. Les coéquipières de l'attaquante star Sophia Smith ont été sauvées par un poteau sur un tir portugais dans le temps additionnel, leur permettant de justesse d'accéder au 8e de finale, probablement contre la Suède. Ce sont finalement les Pays-Bas qui terminent en tête du groupe E, devant les Américaines grâce à leur très facile succès contre le Vietnam, battu 7-0, ce qui leur permettra d'affronter vraisemblablement l'Italie ou l'Afrique du Sud.
Merci, Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Seboudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'ambassadeur du Niger aux États-Unis répond au gouvernement malien et burkinabé qui soutiennent la nouvelle junte qui a pris le pouvoir à Niamey. Dans une interview à la VOA, Mamadou Kiari Liman Tingiri demande à ces deux pays dirigés par des militaires de s'occuper d'abord de la menace djihadiste dans leurs pays respectifs avant de penser à prêter main forte aux putschistes du Niger. L'ambassadeur nigérien dit soutenir les dernières résolutions de la CDAO. Au micro d'Abdourahman Dia, M. Mamadou Kiari Liman Tingiri.
Ma position est la suivante. J'approuve toutes les résolutions de la CDAO. Je considère que notre démocratie mérite d'être défendue. Elle mérite d'être d'autant plus défendue qu'une fois encore, surtout n'a aucune raison. La situation sécuritaire chez nous, elle s'améliore, elle ne se détériore pas. Dire qu'elle se détériore est faux, rigoureusement faux. Tous les événements cités se sont passés avant l'arrivée au pouvoir du président Mohamed Bazoum. Enates, Chinagoder, Bazoum n'était pas président de la République. Nos militaires eux-mêmes se vantaient avec fierté que nous faisions mieux que les autres. Il y a moins de 10 jours, j'ai reçu ici même des hauts gradés de notre armée. Nous avons été ensemble au Pentagone, au département d'État.
Soutenez-vous une intervention militaire de la CDAO?
Ce que je soutiens, c'est d'éviter des souffrances à notre population. Ce que je soutiens, c'est d'éviter que les sanctions déjà prises produisent des effets. Et ça se passe déjà au Niger. On est en contact avec les gens. Demander le prix du riz aujourd'hui à Niamey, cela a grimpé. Pour l'homme de la rue, c'est très difficile. Pour quelqu'un qui vit au SMIC à Niamey, c'est très difficile. Alors, que ceux qui ont commencé cette aventure arrêtent les choses avant que les conséquences encore plus graves ne se produisent sur nos populations. Toutes les sanctions sont bienvenues. La responsabilité, le recours ou non à la force dépend aujourd'hui de la junte. Ça ne dépend de personne d'autre. Les délais sont clairs, les dispositions sont claires. Ils doivent faire ce qu'ils savent, rendre le pouvoir aux autorités légitimes.
Excellence, vous ne craignez pas un enlisement quand vous voyez un peu les réactions des pays comme le Mali et le Burkina et la Guinée qui soutiennent les putschistes aujourd'hui et...
Enlisement, je ne vois pas de raison de craindre un enlisement là où nous sommes. La CDAO, le président Tinubu, a été ferme. Déclarer la guerre à la CEDEAO, ça procède ou du ridicule ou de l'inconscience. Nous avons plus d'un million de kilomètres, plus de 1000 kilomètres avec de frontières avec le Nigeria. Nous avons des langues communes, nous avons une histoire commune. Des Nigériens se sont battus pour défendre la fédération du Nigeria lorsque le Biafra s'est rebellé. Il y a une histoire entre le Nigeria et nous. Alors, au lieu d'aller dans des rhétoriques guerrières et déclarer la guerre aux gens, il faut déjà conduire la guerre qu'on fait déjà. Le Mali et le Burkina, ils sont en guerre avec des terroristes. Qu'ils règlent cela d'abord chez eux et qu'ils fassent du progrès économique et social comme nous avant de faire la leçon aux gens. Voilà ce que je réponds.
Mamadou Kyari Liman Tingiri, ambassadeur du Niger aux États-Unis.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, les opinions divergent sur la politique nationale d'infrastructures routières. Les autorités en charge des routes, des marchés publics et les experts en la matière ont dressé l'état des lieux des routes du pays lors du salon de l'action gouvernementale qui s'est tenu à Yaoundé, nous dit notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Tap.
Mauvais état des routes, coût du kilomètre bitumé très élevé, délai de livraison des infrastructures non respectés, chantier mal exécuté, les récriminations des Camerounais sont nombreuses sur les projets d'infrastructures routières. Valère Bessala, président du parti politique Jouvence.
Si nous qui sommes dans le présent, nous n'avons pas pu calquer tout le monde la qualité et la grande vision de nos pères qui ont construit les routes du passé, que nous continuons à apprécier et utiliser aujourd'hui et qui sont encore intactes, nous nous posons la question pour ceux qui viendront après nous demain. Quel genre de routes ils vont construire, puisqu'ils prendront le mauvais exemple que nous sommes aujourd'hui, puisque nous ne construisons pas de bonnes routes.
L'autre problématique des routes au Cameroun a trait à leur coût jugé trop élevé par des observateurs, à l'instar de Valère Bessala, homme politique.
Le Cameroun a une moyenne de 205 millions de francs sur 100 millions de moyenne en Afrique subsaharienne. Et on atteint parfois des pics de 500 millions de francs le kilomètre de route.
Des interpellations qui ont conduit les responsables du ministère des Travaux publics à réagir. Takwete Donat, directeur général des études techniques routières et d'ouvrages d'art au ministère des Travaux publics.
Pour évaluer le coût du projet routier aujourd'hui, nous ne faisons plus la moyenne des prix, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous faisons des sous-détails des prix. C'est-à-dire, nous identifions clairement quel est l'ingrédient qui entre dans la réalisation de la tâche, quel est le personnel qui est affecté à la réalisation de cette tâche, quel est le rendement qu'on doit avoir en moyenne pour cette tâche avec la batterie qui a été mobilisée. Ça nous permet d'avoir le juste coût de notre projet routier.
Le gouvernement a mobilisé près de 1 400 milliards de francs CFA ces 5 dernières années avec l'appui des partenaires financiers et techniques pour la construction du réseau routier. Mais certaines sections de route sont en état de dégradation avancée. C'est le cas du tronçon entre Ngaoundéré et Garoua, l'un des corridors entre le Cameroun et ses voisins. Professeur Corinne Esseux, chef cellule de la communication du ministère des Travaux publics.
C'est une route qui est normalement dépassée largement sa durée de vie. La réhabilitation de cette route nécessite beaucoup de fonds. Le ministre, personnellement, il est engagé dans la recherche des financements qui vont permettre de reconstruire cette route. Mais seulement en attendant, les opérations qui sont menées sur la route Ngaoundé-Garoua vont davantage être axées sur les ouvrages.
L'exécution des marchés d'infrastructures a été également pointée du doigt. Ibrahim Talbamala, ministre des marchés publics.
Nous n'attribuons aucun marché, c'est le maître d'ouvrage qui les attribue à travers des commissions que nous plaçons sur pied. Et nous veillons au sein de ces commissions à ce que les règles soient respectées. Et quand il y a des problèmes, on revient dessus. Ça peut même devenir une affaire judiciaire.
D'ici 2030, le Cameroun ambitionne construire 6000 km de nouvelles routes et réhabiliter 3000 km de routes bitumées. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le concours culturel des Jeux de la Francophonie se tient à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Le programme comprend notamment la sculpture, la photographie, la chanson, les contes et le hip-hop. Sur place, dans la capitale congolaise, Jini Nua.
Dans l'établissement des Beaux-Arts, point de rencontre du concours culturel, les photographes exposent leurs œuvres depuis ce lundi. Certains ont parcouru les rues de Kinshasa à l'affût de la photo qui leur permettra de remporter le Grand Prix. La nourriture de rue est le thème de prédilection du photographe marocain Oussama Amama.
Les repas de la rue, ou bien ce qu'on appelle le street food, parce qu'il y en a beaucoup ici à Kinshasa. Et j'ai pensé à travailler un peu plus pour faire sortir cette richesse de l'art culinaire congolais. À travers des photos prises des angles de vue un peu spéciales.
L'installation de Marie-Francine Dongmo, qui défend les couleurs du Cameroun, se concentre sur les violences sociales.
Elle présente une sculpture qui a la forme d'un enfant assis. Cette sculpture est faite de bouteilles froissées qui rappellent les tensions, les tourments et les frustrations dont peuvent être victimes, les témoins ou les victimes de violences et des traumatismes sociaux.
Le sculpteur nigérien Amidou Chiambono, Doudou, qui se décrit comme la voix des sans-voix, met en lumière l'extinction des animaux causée par la surconsommation.
Je suis en train de faire une girafe actuellement. Cette girafe, c'est pour interpeller le côté de distinction massive sur les animaux qui sont en train de disparaître. Et cela n'est dû qu'à nous, les humains qui consomment excessivement certaines choses. Donc cela doit être freiné, cela doit être arrêté pour que cela ne disparaisse pas au fil du temps.
Selon le comité de la compétition de peinture, celle-ci n'a pas eu lieu par faute d'équipement.
Ici à Washington, au deuxième jour du sommet des YALI, l'initiative des jeunes leaders africains, intervention remarquée hier de Samantha Pao, administratrice de l'USAID. Elle a interpellé les plus de 700 jeunes leaders africains sur leur responsabilité dans le développement du continent Yacouba Ouédraogo.
Le contexte actuel obligeant, l'administratrice de l'USAID, l'Agence américaine pour le développement international, est revenue sur le coup d'État au Niger, le retour à la démocratie en Gambie, entre autres. Samantha Power fait un lien entre bonne gouvernance, changement climatique, sécurité et développement.
Il s'agit d'outils différents dans une même boîte à outils. Et ce que je viens de décrire ne fait que confirmer qu'ils sont tous liés parce que le changement climatique, bien sûr, exacerbe l'insécurité alimentaire. Lorsque les gens ont faim, ils peuvent être plus enclins à suivre un recruteur extrémiste, non pas parce qu'ils partagent les valeurs de ce recruteur, mais parce qu'il leur offre peut-être un emploi ou un revenu quelconque.
Nous croyons à la société civile et au gouvernement qui rendent des comptes, a ajouté Samantha Power, précisant que les États-Unis ne veulent pas se substituer au peuple et au gouvernement pour développer leur pays. Edouard Ramson Agbor est un jeune leader camerounais qui travaille dans l'agriculture. Pour lui, l'Afrique reste le continent de l'avenir.
D'ici 2050, la population de l'Afrique va doubler. Une sur quatre personnes sur cette terre, ici 2050, donc ça c'est 27 ans à venir, sera en Afrique. Donc je pense que le nouveau marché c'est l'Afrique. Je trouve qu'avec la technologie, avec la terre, parce qu'on a 60% des terres fertiles pour l'agriculture, ça se trouve en Afrique. Donc je pense que tout ça là c'est juste pour travailler avec nous, pour assurer que demain, avec l'abondance de ressources qu'on a, le monde sera stable.
L'Afrique aura donc besoin de nourrir ses populations par elle-même, même si la collaboration avec l'extérieur va continuer. Pour Samantha Power, ces défis futurs nécessitent une redirection de l'aide fournie par les États-Unis à travers leur agence. Elle a souligné que la grande majorité de l'intervention de l'USAID depuis de très nombreuses années n'est pas destinée aux organisations locales mais à des organisations basées aux États-Unis ou à des organisations internationales travaillant auprès des communautés locales dans les pays concernés.
Nous essayons de modifier notre modèle d'assistance et de transférer le pouvoir de définir l'ordre du jour, de suivre les progrès, de changer de cap lorsque cela est nécessaire, afin de transférer ce pouvoir et cette initiative aux ressortissants des pays dans lesquels nous travaillons et fondamentalement aux organisations locales ou aux acteurs du gouvernement local.
Lionel.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sebudia, à la mise en onde, Lionel Runanira Gaïma, à la console, Jimmy Cook. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.